Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In another life.
Vous l'avez ou pas?
Pas du tout.
Katy Perry, The Ones That Got Away. Diego Luna dans ce clip, la flaque. C'est tout.
J'étais archi pas prêt.
Ah, on a une intro polyglotte, j'adore. Hello, Bigette. Perso, j'ai fait allemand. C'est un petit peu moins chantant, ça vous donne un peu moins des idées de soleil. Puisqu'on enregistre, nous, en janvier 2023, il fait froid et moche, car c'est l'hiver. Bonjour, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, j'espère que vous allez bien. Je suis Mimi Hegel, je suis animatrice de ce podcast et je suis entourée de ma team de choc que vous connaissez quand même très très bien. Alors on parlait juste avant l'épisode de par où commencer LMK, c'est ça? Il y a des gens qui galèrent à savoir par où se mettre à écouter?
Non,
est-ce qu'on est obligé de rattraper les 228 épisodes
Il est possible que ce que vous écoutez actuellement et qui est l'épisode 221 soit rebrandé comme étant l'épisode 1, par exemple, de la saison 14. C'est possible.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de saison et du coup, ça peut commencer à être un petit peu intimidant pour les gens. Quoi.
Et comme ça, les gens peuvent commencer à l'épisode 1 de la saison 18 au lieu de l'épisode 221, par exemple.
Eh bah, ben écoute, dans le doute, bienvenue dans l'épisode 1 de Laisse-moi kiffer, un podcast qui vient de débuter sur mademoiselle.com avec une équipe inédite que vous allez découvrir de façon totalement nouvelle aujourd'hui. Du coup, je me suis déjà présentée, je le refais. Je suis Mimi Hegel, je suis créatrice de contenu. J'anime Laisse-moi kiffer, c'est un podcast où on va vous parler de trucs qu'on aime.
Elle ment.
Et qu'on a plus ou moins préparé. Et on va aussi sûrement râler et digresser et raconter nos vies parce que c'est le concept. Pour mieux se connaître, on se pose une petite question au début. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes en plein mouvement de grève et de manifestation contre la réforme des retraites portée par ce gouvernement libéral.
Alors, l'honneur. Macron démission.
Macron démission.
Pécresse aussi, comme ça, on fait un combo.
Oui. Aïda, elle l'a pas dit, elle est de droite.
C'est vrai. Elle a dit oui.
On a dit que c'était l'épisode du rebranding.
Aïda, personne très peu de gauche.
Je reste discrète sur mes orientations politiques dans cet épisode.
Une discrétion qui devrait durer très longtemps.
Car jadis, on m'a dit que j'étais droitophobe. Donc,
c'est vrai que tu pourrais être plus inclusive, Aïda, quand même.
All inclusive, comme un hôtel.
Son kiff, c'est encore Philippe Poutou, de toute façon.
Du coup, pour rendre hommage à cette belle tradition française qui est la manifestation et la grève, j'ai voulu vous demander quelle personne vous êtes en manif. Qu'est-ce que vous faites quand vous battez le pavé? Est-ce que vous êtes en tête de cortège? Est-ce que vous êtes sur le teco à prendre des selfies? Est-ce que vous êtes au milieu à avoir perdu vos potes et vous savez pas exactement si vous allez réussir à les retrouver? C'est une histoire vraie. Qu'est-ce que vous faites? On va commencer par toi, Anthony Vincent, rédacteur mode chez mademoiselle.com.
Alors, effectivement, je viens très looker aux manifestations car ça fait partie de mon métier.
Alors, je suis plus ta chef, mais fais-en un article. Comment être stylé, mais pratique en manif. Parce que j'ai vu un milliard de conseils sur quoi porter en manif. Ouais. Mettez pas votre crème de jour parce que sinon les lacrymos, ça se colle aux particules grasses et tout
pas
machin.
Gentil.
Et je suis là, moi. Ok, on va pas en manif pour être BG, mais si on peut être un peu BG en manif, c'est pas mal. Donc, bravo d'être looké en manif.
Mais après, ça dépend, oui, effectivement, quelle manif et si t'es en tête de cortège ou pas, tu vois. Moi, je suis rarement en tête de cortège. Et surtout, je suis très mal organisée. Du coup, généralement, ma pancarte, bah, je l'écris dans le cortège. Enfin...
Est-ce que tu fais ce truc où tu as mal calculé la taille des lettres et du coup, tu veux les serrer un peu?
Oui, totalement, totalement. Et si vous fouillez dans les photos sur lesquelles je suis identifié sur Instagram, ANTHYVNCT.
Et non pas VCNT.
Voilà. Sinon, vous tapez Anthony Vincent, vous allez me retrouver.
Oui, ça marche aussi.
Eh bien, si vous regardez là-dedans, il y a plein de photos de moi en manif avec des pancartes. Et à chaque fois, ça se voit que j'ai galéré à la fin pour écrire les dernières lettres parce que j'ai mal calculé.
Je m'identifie beaucoup à cette procrastination pancartière.
Voilà, c'est très grave. Je ne sais pas me soigner. Je l'écris sur le dos de mes potes pendant qu'on marche. Donc, c'est mal écrit, c'est moche. Et c'est vraiment grave. Hein.
J'ai envie de t'offrir des pochoirs à Noël.
Ah oui, s'il vous plaît.
Des pochoirs avec des slogans de manif.
Oui.
Ah, ça devrait exister,
juste
ouais.
Juste des pochoirs lettres et comme ça, t'en fais Tu écris ce que tu veux.
C'est vrai, c'est
ça
vrai,
marche
c'est...
aussi. Mais on en avait fait dans une box mademoiselle des pochoirs de trucs féministes.
Mais c'est déjà extraordinaire que j'arrive avec un bout de carton en manif.
C'est vrai.
Et des stylos.
Parce que moi, je ne fais pas.
Et voilà, donc je suis la personne qui a dans sa banane des feutres indélébiles, du sérum Phi et des lunettes de soleil et de la crème solaire. Et c'est hyper important la crème solaire. Et voilà, et j'écris mon bout de carton en marchant, quoi. Et du coup, généralement, c'est prêt vers la fin de la manif.
Franchement, le procrastineur le plus looké des manifs, c'est vraiment le meilleur persona pour toi.
Ouais, je suis grave une fraude, désolé.
Bah non, t'y vas et t'as des pancartes, c'est déjà plus que c'est ce que moi j'ai fait hier par exemple.
Surtout j'y vais avec de la voix pour gueuler, les slogans, voilà, c'est le plus important.
Aïda, toi qui es peut-être ou peut-être pas de gauche, qui es-tu en manif?
Moi qui vais devoir mesurer mes mots pour ne pas me faire ficher S. Non, j'égole, je ne fais rien d'illégal, pardon, maman.
Alors moi, je suis la personne qui casse des abris avec mes potes. On met des foulards noirs sur notre gueule et puis on va éclater des vitrines, quoi. Tranquille, tu coco.
Non, en vrai, bon, ça sert à rien de se rebrander en manifestation. chose qui est une activité extrascolaire pour moi depuis que j'ai 2 ans et demi à peu près. Je suis la personne qui a l'habitude d'aller en manif et qui du coup comprend bien un peu genre comment les gens ils se placent et où est-ce qu'il faut aller à tel moment et où est-ce qu'il faut pas aller à tel moment et tout. Du coup souvent je suis un peu la daronne de la manif. Genre quand je vois des enfants qui font n'importe quoi, je leur dis un peu où est-ce qu'il faut aller et tout. Et je suis aussi la personne insupportable qui dit on court pas quand il y a des gens qui balancent des lacrymos, car il faut que quelqu'un le fasse, car c'est important de ne pas courir en manifestation même sous la panique.
Pour ne pas créer de mouvement de foule qui peut
être très dangereux.
Et créer de la panique. Donc après les gens courent. Et donc après il y a de la
foule
panique,
et après les gens courent et tout.
Voilà. Vortex.
J'ai vu assez de films de zombies pour savoir comment
exactement.
Ça se passe.
Et quand on est dans une nasse entourée de CRS et qu'on ne peut pas bouger, il faut
et
pas
qu'il y a
ça.
Peut-être des enfants en plus qui couraient partout, qui faisaient n'importe quoi.
Tout à fait. Du coup, je suis un peu une vieille daronne de manif et aussi
est-ce que genre tu prends des snacks et des bouteilles d'eau en plus pour les donner aux gens?
Non.
Pas à ce point-là.
Vraiment pas. Je laisse ça aux experts de la CGT avec leur petit barbecue à roulettes trop mignon.
Oui.
Mais ouais, non, voilà, globalement. Et je crie des trucs. Et
pas de pancarte.
Pas de pancarte. J'aime bien avoir les mains libres et tout. Genre, je suis pas très aller en manif chargée. Je suis très aller en manif avec du sérum Phi dans les poches et des bonnes baskets.
Très bien. Mathis ?
Je suis une personne paradoxale en manifestation parce que, à la fois.
T'es une femme à baragoule ?
De quoi ?
Non, pas moi, t'es trop jeune. T'es trop jeune ?
Mais toi aussi, t'es un 2002. Alors, on l'a pas dit, mais Anthony est un jeune membre de l'équipe de Laisse-moi kiffer de Mademoiselle.
C'est ça.
C'est notre recrue Zoomer, puisqu'il est né en 2002, rendez-vous.
Exactement.
Il n'a pas vécu la Coupe du Monde 98, bien sûr.
Vous pourrez vérifier sur sa page Wikipédia.
Mathis qui. T'as une page Wikipédia, frère ?
Oui. Non, j'ai pas de page Wikipédia, suivez-moi sur TikTok.
Il a une page Wikipédia de fou. On vous mettra le lien dans la description.
Évidemment.
Mathis, pardon, qui pour le coup est plutôt proche de la retraite, bien sûr.
Et qui n'a pas de page Wikipédia.
Et qui n'a pas encore de page Wikipédia.
Ouais, non seulement proche et attaché à la retraite finalement, qui est un concept finalement assez chouette, comme on a quand même eu une belle idée.
J'adore
à
la retraite, dans 10 ans il n'y en aura plus.
N'est-ce pas
une forme d'ambivalence.
Ambivalence parce que j'ai des moments où je suis complètement teubé, les larmes aux yeux, en mode ce qu'on vit c'est magnifique, la force du collectif, enfin je suis une daronne de Montreuil quoi.
C'est trop précis putain.
Et la seconde d'après je suis angoissée parce qu'il y a un bruit un peu fort et que j'aime pas les trucs un peu forts et un peu soudains et parce que je suis fragile également. Et typiquement ouais, genre j'ai déjà fait des concerts pareil où il y avait des pétards, je suis au bout de ma vie, je déteste ça. Et de même que quand j'avais été...
Une forme de labrador quoi.
Exact, une forme de labrador, je suis un labrador
en manif.
On revient
toujours à cette même conclusion.
Je suis toujours
Mathis, un dogo de labrador.
Est-ce que chaque semaine à chaque question je réponds je suis un labrador,
tu
voilà.
Peux...
Quelle que
non,
soit
tu
la
réponds
question,
autre chose, mais on va toujours finir par boucler sur un peu labrador finalement.
Mais voilà, mais typiquement, quand j'avais été à New York, quand on avait été à Times Square, et typiquement, ma pote avait adoré en mode ah mais il y a plein de stimulation et tout, et était en mode t'as vu c'est trop bien, elle se tourne vers moi, j'étais en larmes, j'étais au bout de ma vie parce que je vois tout ce qu'il y a autour. En fait, j'ai une bonne vue, j'ai un bon regard périphérique, j'ai plutôt une bonne oreille aussi, et du coup j'entends tout, je vois tout, je ressens tout, et je suis en mode ah le métaverse, et du coup c'était l'enfer. Et donc en manif, je peux avoir ce genre de moment, donc ça je choisis bien, on va dire, mais les manifs où je vais et les parties de la manif dans lesquelles je vais.
Yes.
La manif nous toutes, pas de problème, on est là, tu vois. Pareil, la pride radicale, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des manifs où ça commence à partir un peu en couille, allez.
Et c'est le moment pour moi de rentrer chez
Exactement.
Moi.
Exactement. Malheureusement,
gauche,
car je suis un peu lâche.
Bonne continuation.
Oups. Non, mais il n'y a pas de. Enfin, l'important, c'est d'être là si jamais vous pouvez et vous voulez. Mais enfin, je suis assez hypersensible aussi, surtout au bruit. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écouter en fait ma propre musique ou ma propre playlist en manif aussi pour m'épargner. Surtout quand je sens que j'ai trop d'émotions et trop de stimulation et que ça devient ingérable pour aider de partir en crise, bah, j'écoute ma musique.
Ouais, et puis quand t'as eu motivé des Zebda trois fois, t'en peux plus, tu vois.
Oui, déjà la première fois, là, est-ce qu'en 2023, on n'a pas de notre son de manif?
Là, j'étais arrivé, attends, j'ai un disque, non.
Quand est-ce qu'on n'a pas eu un nouveau son de manif en vrai? Est-ce que ça se renouvelle ou pas?
Bah, franchement, maintenant, il y a Aya Nakamura, donc c'est.
Oui,
bah,
c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Merci à Aya Nakamura d'avoir mis une alternative à Zebda. Un contenu supplémentaire à Zebda et affilié dans nos manifestations françaises. Moi, je vais pas trop en manif parce que déjà, je sors pas trop de chez moi. Aussi, j'aime pas trop la foule et j'aime pas trop. En fait, j'ai.
T'aimes pas trop la gauche.
Je suis pas agoraphobe, j'adore la gauche.
Juste la balif pour toutes, c'est tout.
Oui, je fais voilà. Je me suis déplacée pour les causes qui valent le peine la peine. Non, pas du tout, évidemment.
C'est lapsus. C'est incroyable. Les causes qui valent Le Pen.
Ah, j'ai dit qu'ils valent T'as Le Pen. Écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai dit. Je le pense.
C'est enregistré.
C'est capté. Du coup, je suis pas agoraphobe, mais genre, je peux faire des événements avec plein de monde et tout, c'est pas un souci. Mais j'ai peur des mouvements de foule. Et du coup, le fait de, en plus, maintenant que les manifs sont peut-être un peu moins familiales qu'il y a quelques années et un peu plus menacées, etc. Et puis aussi, moi, maintenant, j'habite à Paris. Les manifs à Valence, dans la Drôme, c'était un peu moins vénère parce qu'il y a déjà moins de personnes humaines qui habitent là-bas. Et les flics sont peut-être un petit peu moins tendus qu'à Paris. Du coup, voilà, je fais peu de manifs, mais j'en ai fait quand même, notamment à Paris. Et je suis, alors moi, du coup, je suis sur le Teco et vers l'arrière. Genre, je suis vraiment pas au cœur de la manif parce que l'idée, c'est toujours d'avoir l'impression au moins que je peux me barrer quand je veux, que vraiment je peux juste m'arrêter, prendre la première rue à droite et quitter le cortège et prendre le métro et rentrer, quoi.
Au niveau du barbecue.
Et je suis bien évidemment, au niveau du barbecue, je pense que j'ai jamais fait de manif sans manger un sandwich merguez à un moment. Pour moi, ça fait partie du package. Et c'est vraiment un plaisir. Genre, je mange pas de sandwich merguez dans ma vie, très rarement. Mais à chaque fois que je fais une manif, je mange un sandwich merguez pas très bon, du gars qui a son stand à répu, là. Et je suis là, c'est pas très bon, le pain il est nul. La merguez, elle est sûre ou sous-cuite, on sait pas trop. Il y a des vieux poivrons. Et là, on sait pas depuis combien de temps ils sont là, mais ça fait partie de l'attirail. Tout comme je vais jamais à Ikea sans manger un hot dog Ikea, je vais jamais en manif sans manger un sandwich merguez. Je sais, juge-moi, ils coûtent 50 centimes, je les aime bien. Quoi ?
Non, j'ai juste me rappeler qu'il fallait griller chez Ikea.
Bon, finalement.
Donc voilà, évidemment, côté bouffe de la manif, qui est aussi généralement un côté assez calme, où les gens bah, justement font plutôt une petite pause, où il y a des enfants, des gens qui se rechargent parce qu'ils ont un peu tourné de l'œil ou quoi, et près de la sortie. Comme dans les salles de concert. Toujours. Alright, c'est l'heure d'un segment inédit de ce podcast inédit dont nous fêtons le premier épisode. On s'est dit, on va inventer des commentaires qu'on aurait reçus sur d'autres épisodes qu'on aurait par exemple fait dans une dimension parallèle.
Une autre vie.
Voilà, dans une autre vie avec d'autres voix. Du coup, Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur ta dernière participation à un autre podcast qui ressemblait vachement à Laisse-moi kiffer, mais comme on fait le pilote, ça marche pas.
Évidemment, j'en ai même deux, et que je vais lire rapidement. Wow. Alors.
T'inquiète, prends ton temps.
Il y en a un premier de quelqu'un qui s'appelle prononcé Louve, qui dit
Je l'adore, on s'est appelé l'autre jour.
Oh.
Adorable.
Personne très cool.
Cette personne nous dit bonjour Anthony, je commence à écouter le dernier LMK, et désolé pour Mathis, Mimi et Mathis, à nouveau. Ça devait être Kalindi, la troisième personne, je pense, dans cet épisode.
Après, peut-être tes excuses deux fois. J'ai le droit de recevoir deux excuses, laissez-moi.
Mais oui, on dit goyave comme voyage. Merde. Avant, je disais goyave. Mais un jour, j'ai entendu François Houlac et Kevin Donat, ex Le Chip, donc c'est un autre podcast, parti trop tôt, s'énerver contre les gens qui prononçaient mal le mot. Et c'est là que j'ai compris ma méprise. Bon, en référence un peu nul, mais il me semble que Emmanuel Macron a parlé de goyave, le lieu, et même lui l'a prononcé ainsi. Donc bon, si même notre cher non-président le dit, ma foi.
Macron débute son once again. Attends, mais c'est un endroit, goyave ?
J'ai pas googlé cette information, donc fact-checkez chez vous.
Mais du coup, il faut qu'on dise le contraire de ce qu'Emmanuel Macron dit, non ?
Toujours.
Bah non, parce que lui, il a une team de gens qui sont payés cher pour lui éviter de dire des conneries et de mal prononcer, tu vois.
Bah putain, pas assez cher. Hein.
Bah... C'est parce qu'il a dit goyave.
Bah non, oui, mais sur le reste. Au-delà
ah non, mais après, il dit de la merde.
Autour
ça,
de goyave, il y a deux, trois petits trucs.
You can only do so much. Bon.
Et donc, elle dit, voilà, c'était pour la petite réaction. Continuez votre travail, je vous suis avec délice chaque semaine. Et je trouve que délice est un terme qu'on n'emploie pas suffisamment.
Comme jadis.
Il me dégoûte.
Exactement. Ah, j'adore.
J'adore jadis, je déteste délice.
Eh bien, merci pour cette information,
c'est
Aïda.
C'est une opinion, désolé.
Non, mais oui.
Et autre petit commentaire très intéressant de Vic, @badassquirrel, comment on dit,
squirrel, tout à fait.
Elle
se prononce comme Goyave.
Arrêtez. Arrêtez donc. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est prononcer Goyave comme voyage. Merci.
Tout à fait.
Goyave, Goyave.
Mon Dieu.
Loin. Maintenant, vous ne l'oublierez plus jamais.
Elle nous dit, cette fière personne, je cite, « Hello Anthony, je me glisse dans tes DM puisque j'écoute actuellement LNK numéro 219, qui n'a jamais existé car nous en sommes à l'épisode 1, où tu parles de Madame Arthur. Vu que tu aimes le cabaret, j'en profite pour te conseiller le merveilleux cabaret de La Flaque. Je fais partie de l'asso, donc zéro objectivité. »
Le nom.
Notre
le nom.
Insta,
pardon,
c'est...
on peut s'arrêter là-dessus.
Arrobase la.flaque, F-L-A-Q-U-E.
Incroyable.
Comme une flaque quand on voit Oscar Isaac.
Une flaque de pluie, finalement, aussi. Mais j'aime bien. Disons quand on voit Pedro Pascal, parce qu'on va en reparler.
Voilà, qui s'y frotte, s'y prime. Si tu veux jeter un œil, le prochain samedi 25 février...
C'est le titre de cet épisode, déjà, c'est sûr.
Au théâtre Croix de Chaveau, à Montreuil. Voilà, donc si tu veux venir... Bref, pardon. En tout cas, merci pour tes recommandations dans LMK et tes super articles sur Mademoiselle. Oh mon Dieu, elle nous lit parce que Mademoiselle est un média.
Quoi?
Voilà.
C'est vrai, Mademoiselle est un média écrit, un magazine web que vous pouvez retrouver sur l'internet, voilà.
Mais c'est... attendez, vous existez en dehors de cette session
effectivement.
On est dans la pièce avec toi.
Et même que Mademoiselle, ça s'écrit bizarrement. MADMOIZELLE.com.
Tout à fait.
On dirait une pub sur la radio, en mode « Quoi ?» M-A-D.
Après, il parle très vite en disant « Les conditions générales d'utilisation... »
En proximité des conditions, les magasins participants.
Voilà,
en gros.
Tu fais très bien.
Bof, il manque des conseils.
T'as fait des études de radio un peu.
Non. J'ai terminé avec mes commentaires. Merci.
Merci pour ces commentaires.
Merci.
Et merci de nous envoyer des commentaires. N'hésitez pas, nos Instagrams sont dans la description de cet épisode et vous pouvez aussi envoyer des DM au compte @laisse-moi-kiffer et non pas @LMK. Aïda, what's
up ? Vous êtes si vif autour de moi et moi je suis si lente. Car sachez-le, je suis grognon aujourd'hui.
Oh, mais... Aïda Ronchon.
Mais quand je suis avec vous en train de tourner LMK, tous mes soucis n'existent
plus. En plus,
plus,
tu es en train de te présenter à un public qui ne te connaît pas.
Bien
ben
sûr.
Oui.
Ils vont croire que t'es ronchon, maintenant ils auraient tort.
Alors que j'ai jamais été ronchon une seule fois dans ma vie. Bonjour. Bonjour, gens que je pourrais appeler par exemple LM Cœur, LM Kiefer, LM Caribou, LM Cat, voilà, toutes ces choses que nous aurions pu inventer dans une vie parallèle,
tout à
une
fait.
Vie antérieure.
In another life.
Vous l'avez ou pas?
Pas du tout.
Oui. Stay. Oui. Katy Perry, The Ones That Got Away. Diego Luna dans ce clip, La Flaque. C'est tout ce que
j'étais archi pas prêt.
C'est une fulgurance. Aïda, un commentaire hein.
J'ai le meilleur commentaire de l'histoire de tous les commentaires de l'humanité. Désolée à toutes les personnes qui ne l'ont pas
dès
reçu.
Dès le premier épisode, incroyable.
Dès le premier épisode, et finalement. Ben. Mais comme ça, ça enlève la pression au reste du monde.
C'est
tu
vrai.
Il n'y a plus besoin d'essayer de faire le meilleur
vous
commentaire.
Vous ne serez pas top 1.
Oui, arrêtez d'en envoyer, c'est
déjà...
fini. Hein. Vous êtes battus.
Non, mais envoyez-en, mais juste sans presse, quoi.
Ça sera moins bien.
C'est un commentaire de Louise Liver, @frissongagnant sur Instagram, qui m'a écrit. Attention, un commentaire en alexandrin.
Waouh !
Que je vais lire car, ma foi, c'est un commentaire qui fait référence à un truc que j'ai dit dans un ancien kiff. Du coup, désolé pour le monde parallèle, je vais pas pouvoir continuer à filer la blague. Il y a eu d'autres épisodes de
des commentaires, quoi.
Un jour jadis, j'ai parlé d'un livre jeunesse dans lequel j'ai dit « Ouais, c'est un peu des Bretons qui font de la magie avec des runes ». J'ai reçu dans la foulée plein de commentaires de gens qui me disaient alors oui c'est pas du tout des Bretons c'est censé être vite fait la Bretagne mais ça se passe dans un monde, enfin bref ils m'ont réexpliqué l'histoire.
Ouais c'est des Bretons quoi.
C'était vachement bien expliqué, l'histoire avait l'air bien meilleure que celle dont je me souvenais et tout le monde a reconnu ce de quoi je parlais donc vraiment tout
ouais,
va
t'as bien.
Donc
bon,
c'est
t'as
des
bien
Bretons.
Donc finalement les Bretons oui. Qui font des trucs ça marche.
Voilà c'est bon.
Louise Liver me dit Yo Aïda, toi qui un jour dans LMK au détour d'un kiff, des poèmes demanda. Voici pour te servir de schlags alexandrins, quelque peu maladroits car ils sont de ma main.
C'est beau.
Comme vous nous demandiez avec nostalgie sur les sorciers bretons qui un livre a écrit. Il s'appelle Éric Lhomme et j'ajouterai que comme, en des termes élogieux que vous en parliez plus tôt, c'était un grand ami du Bébou Botero.
Oh Bébou Botero, putain.
Oui.
Je ne puis continuer à m'exprimer en vers, car horreur mes aïeuls d'une droitarde j'ai l'air, emoji qui vomit. Mais pour tous ces fous rires et ton RP guerrière, mon roleplay guerrière, référence à Game of Reroll sur Twitch. On y joue avec Mimi très souvent. On mettra un lien dans les notes du podcast.
Tout à fait.
Dernier Alexandrin, je n'ai qu'un mot à dire de tout mon cœur, Cimer.
Waouh.
Oh là là.
Schlags alexandrin, c'est mon nouveau combo de mots préféré.
C'était incroyable.
C'était trop bien.
Merveilleux à lire. Même à lire, j'ai trop aimé le lire parce que c'était vraiment des super alexandrins.
Un délice.
Louise Liver, je t'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Non mais oui, la barre est très haute. Très très haute. À voir si vous arriverez à faire mieux.
Envoyez-moi des poèmes, hein, n'hésitez pas. Genre, vraiment, j'aime les poèmes.
Même mes ex m'ont jamais fait un truc pareil, quoi.
C'est donc ça, les relations parasociales. Mathis, tu as un commentaire ?
Oui, j'en ai même sélectionné plusieurs parce que pourquoi pas. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. J'étais à Bruxelles le week-end dernier, ça me paraît déjà loin. Mais
Bruxelles,
du coup,
Bruxelles, je... pardon.
C'est un épisode Jukebox,
tu veux dire ? BXL !
C'est vrai. Et du coup, j'ai reçu un commentaire de Oli Maxi qui m'a fait tout un petit texte tout mimi. Et je précise que j'étais à Bruxelles parce que du coup, j'étais en train de marcher et genre, j'ai dû m'arrêter parce que mes petits yeux, ils se remplissaient de larmes parce que j'étais touché. C'était mimi. Et c'est juste parce qu'elle m'a dit coucou. Oui. Elle m'a dit coucou Mathis, ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion, donc je me suis dit que j'allais te la partager. Donc là, je ne sais pas ce qui vient ensuite, on ne sait pas, suspense. Je trouve que tu fais un travail de dingue pour LMK, que ce soit le montage des épisodes, l'incrustation des exemples sonores des kiffs, les multiples versions des génériques, les montages photos pour les vignettes Instagram, les stories interactives, les jeux de mots de qualité, tout ça, franchement, bravo. Je rappelle que je n'ai pas écrit ce commentaire, ça n'est jamais arrivé, d'ailleurs, c'est le premier épisode. elle me dit, tu en fais beaucoup, on dirait que je suis décédé. Et en plus, c'est toujours recherché et pertinent. il y a mon porte.
Oui, c'est la première option, c'est il est mort, hein, c'est pas il est allé bosser ailleurs.
C'est vrai, il est décédé, il y a une bougie devant son visage. Non, c'est vrai. Tu en fais beaucoup et en plus c'est toujours recherché et pertinent. Je trouve que t'as beaucoup de conscience professionnelle et une créativité très divertissante. Qu'on donne une augmentation à cet homme, c'est écrit en majuscule et ce n'est toujours pas moi qui ai écrit ce commentaire.
Hâte la direction néanmoins.
Entre parenthèses, pour financer un support avec amortisseur pour le, sur lequel poser Ruby dans le panier du Vélib quand vous passez sur les pavés. She only deserves the best. Pour les gens qui viennent de débarquer, Ruby c'est mon petit chien qui est une petite fragile et qui n'aime pas beaucoup les pavés quand elle est dans le panier du vélo. Et d'ailleurs moi non plus, mais c'est pas ma faute. Et elle me dit, elle conclut en disant vraiment bravo et merci pour ton travail, tu rends l'expérience d'être une LM kiffeur kiffeuse encore plus agréable, des bisous. Et j'ai trouvé ça très mimi.
Oh, oui, et c'est très vrai, quand t'as take over le montage du podcast, j'ai plein de, mais je te l'avais dit je pensais à l'époque, j'ai plein de potes auditeurs et auditrices qui m'ont dit ça tue ce qui fait Mathis quoi, c'est vraiment du super boulot.
Donc, bah trop bien, bravo. Bah profitez tant que ça dure, c'est chouette, voilà.
Après on meurt.
Exactement. Non, et je voulais faire une petite un petit clin d'œil quand même à une LM Crado qui s'est mise dans cette mission du coup de faire le fameux doc récapitulatif par rapport au livre qu'on a lu.
C'est incroyable, j'ai pu l'enlever de ma to-do list alors que j'avais même pas entamé l'idée de peut-être le faire pour de vrai et il y a une LM
quelqu'un
qui
l'a fait.
Oui. Et c'est en deux étapes. Il y a donc il y a Chloé tiré du bas MGR qui l'a fait avec un Google Doc. Alors il y a des toutes petites bébés erreurs mais qui m'ont fait beaucoup rire. Par exemple La Troisième Vengeance de Robert Poutifard, qui est un livre de Jean-Claude Bourleva. Elle a écrit que l'auteur c'était Robert Poutifard et j'ai trouvé ça incroyable. Il a écrit La Troisième Vengeance de Robert Poutifard. Voilà, je trouvais ça très drôle. Mais au-delà de ça, enfin le travail est complet, le tableau est super clair. C'est trop. Pourquoi je suis en train de corriger une copie
Le travail est complet, c'est
travail
très clair.
Travail pertinent. Et du coup, dans la foulée, il y a Shana tiré du bas Marine qui nous a fait un Goodreads.
Mais les LM cœur, mais je vous aime tellement.
Et oui.
Et Goodreads, coup, c'est une plateforme où on peut centraliser du coup les livres qu'on lit et y mettre pourquoi pas des critiques, mais déjà centraliser tous les livres dont on a parlé dans l'MK sur Goodreads, c'est un travail de titan.
Voilà, elle a fait une étagère par personne, donc c'est très chouette.
J'ai mon étagère Goodreads LMK.
T'as ton étagère Goodreads LMK.
Je suis trop émue.
Je vous partagerai tout ça sur Instagram incessamment sous peu.
Oui.
Et voilà, je vous donnerai tous les liens nécessaires. Je pense dans une story que je mettrai ensuite à la une si je fais bien mon travail.
Surtout qu'effectivement, il faut vite prévenir les gens avant que d'autres personnes essayent de le faire en fait pour leur
oui, c'est bon, c'est fait. Dès l'épisode 1, merci, bravo à vous. C'est fait. Vous n'avez plus à le faire, sauf si vous trouvez que c'est mal fait et que vous voulez en faire une deuxième version, mais c'est vraiment
colère.
Votre problème au bout d'un moment.
Une guerre de chapelle.
Grave. Je sais pas quoi.
De quoi ?
Enfin, je sais pas. Sur Sens Critique ou je sais pas quoi, non, il y a pas un truc comme ça.
Oui, bah
sur
faites-nous un BookTok si vous voulez, faites-nous une chaîne Twitch, enfin voilà, débrouillez-vous quoi, mais c'est déjà trop bien.
Gratuitement, allez-y.
Goodreads et un doc. Classement de, enfin Excel recensement de tous les livres qu'on a vantés dans LMK.
Et vraiment, toi Mimi, pardon. Non, vas-y, vraiment.
Vraiment, le monde ne mérite pas les LM cœur et vous
vrai.
Êtes
c'est
vraiment.
Vrai. Le monde a de la chance de vous avoir.
Trop c'est cool vrai. Et trop et chou. Aussi. Collectivement, de faire des trucs comme ça et de nous envoyer des commentaires et d'être d'excellents êtres humains puisque vous nous écoutez toutes
c'est
les semaines.
Vrai. Tous les jeudis. Chloé me dit, elle rebondit sur mon kiff alors qu'il n'était pas le dry January, car je ne fais pas ça, mais qui était une réflexion sur la gestion de ma consommation d'alcool et le fait d'être un peu plus en contrôle maintenant qu'il y a quelques années. Chloé me dit « Hello, bonne année Mimi ». Bonne année Chloé. J'ai bien aimé ton kiff sur la consommation d'alcool. C'est une discussion que j'ai souvent avec mon entourage. Je ne suis personnellement pas une grosse buveuse. Team aller en soirée techno sans une goutte d'alcool toute la nuit par exemple. Respect, je fais pas ça même bourré. Mais je me permets de partager mon tips pour conscientiser sa consommation et faire le vrai choix de prendre un verre d'alcool quand on est au bar et pas juste par réflexe. Perso, je commence toujours par un soft. Et bien souvent, je me rends compte qu'après un verre d'iced tea, je n'ai pas envie de plus. Alors que si je commence par un verre de vin, ça en appelle d'autres derrière. Smart. Et si après mon soft, j'ai envie d'alcool, je sais que c'est une vraie envie. J'ai pris cette habitude en septembre, donc nous sommes en janvier, et ça a été plutôt bénéfique. Voilà, c'était mon conseil, en plus de la sacro-sainte règle, un verre d'alcool, un verre d'eau. Bonne année à toute l'équipe LMK. Petit tips, du coup, si... Waouh, je vais pas y arriver, je vais la refaire. Merci Chloé, petit tips supplémentaire, du coup, pour celles et ceux qui voudraient consommer de l'alcool parce qu'ils en ont envie et parce que c'est vraiment pour passer un bon moment ou pour une bonne raison et pas juste par réflexe ou par pression sociale. Prenez d'abord un petit soft, sirotez-le tranquillement et comme ça vous verrez si vous aviez surtout soif et envie de convivialité ou si vous avez en fait bien envie d'un petit verre, auquel cas bah, faites-vous plaisir avec modération. Merci pour vos commentaires, c'est l'heure d'une anecdote de star que comme d'habitude je n'ai pas lue car je veux la découvrir en même temps que vous, qui nous a été envoyée par Lo sur Instagram. Lo nous dit: je viens de me rendre compte que je n'ai jamais raconté mon anecdote de star, mais elle est tellement nulle à chier que c'est carrément une anecdote nulle. Il faut savoir que je suis fan de... Putain, attends, t'avais dit comment... Tame Impala Tame... Moi, je dis
Tame Impala.
Tame Impala. Impala.
Moi, je dis Koyav.
Tame Impala, donc artiste musical originaire d'un pays de Scandinave, c'est ça? J'ai l'impression d'être Samuel Etienne.
Kevin Parker, il est américain.
Je sais pas. Bon, je suis fan... Bah, alors, avec qui je confonds, je sais pas. Je suis fan de Tame... Impala,
tu confonds
depuis
avec
2013. Ah oui, je confonds avec Touvelou, qui s'écrit Tovelo.
Ouais.
Mais en fait, il y a des... Bref. Ok, je reprends. Lo me dit... Il faut savoir que je suis fan de Tame Impala depuis 2013, donc avant la grosse fame.
Australie.
Très bien.
Pardon.
En 2015, je me suis fait tatouer un de leurs titres sur le bras. Oui, oui, le niveau de la groupie est incommensurable. La personne derrière le groupe, c'est Kevin Parker. Et pendant un moment, il sortait avec Melody Prochet du projet musical Melody's Echo Chamber. J'adorais cette artiste aussi. Et j'avais lu une interview où elle disait quel lieu elle fréquentait à Paris. Surprise ! Elle fréquentait un lieu que je fréquentais aussi, un petit bar du 11e arrondissement. Ce bar n'ayant qu'un seul WC, je me suis imaginé qu'elle avait posé ses fesses sur cette lunette de toilette où moi-même j'avais posé mes fesses et que du coup j'étais pas si loin d'avoir touché les fesses de Kevin Parker. Voilà, c'est à la fois l'anecdote la plus nulle et la plus creepy du monde. C'est à quoi Mathis a répondu « Oh !» Un « Oh » assez mérité. Merci pour cette anecdote de star qui en effet... qui implique une star, mais par capillarité, quoi, par procuration,
c'est
par
germe.
Alliance, par contact de lunettes de
par
toilette.
Par capillarité.
Anecdote de germe de star.
Ouais, tout à fait. Mais merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes de star.
Capillarité, c'est joli quand même.
Capillarité, ça marche bien, je trouve. Mm-hmm. Et ça marche aussi
Very
si genre, tu twerks sur quelqu'un qui a twerké sur quelqu'un et tout, tu vois.
C'est vrai. Si tu twerks sur cette
twerk.
Meuf, t'es à un degré de séparation d'avoir twerké sur Kevin Parker, du coup.
Ce qui, moi, m'intéresse peu, mais ça peut être une recommandation.
Ouais, littéralement,
pour
je savais pas qui
c'était.
Peut-être qu'il
a twerké sur d'autres gens.
Donc,
peut-être que c'est comme
bah,
ça qu'on accède à Michel Drucker.
Je pense que j'ai twerké sur Michel Drucker par boutilarité.
Je pense que j'ai twerké sur Michel Drucker. Très bon titre d'épisode aussi. Ça va être compliqué de trancher. C'est l'heure de passer au cœur de ce podcast, au sel de la pistache qui est LMK dans le paysage podcaster français, puisque c'est l'heure de ce qui a donné son nom à cette émission. C'est l'heure des kiffs et donc du jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs.
Waouh, merci Valentin.
Vous n'aurez pas la ref à la maison si vous écoutez. Vous commencez par là.
Qui est Valentin? Ne le cherchez pas dans les notes du podcast, il n'y sera pas. Valentin est un mystère.
J'aime pas les mecs qui font des tag and die. Pardon.
Quoi? Valentin, il a fait
on
un tag and
pas...
die.
Non, on va pas continuer, on va juste laisser ça voilà. Là. J'aime pas les mecs qui font des tag and die. Un jour, Tequila Tex dans mon podcast sur House of the Dragon, il a dit « Je me méfie des hommes qui ont un man bun ». j'étais là, je comprends un peu.
Non,
parce
moi
que c'est pas les chauves, t'es qu'il a
c'est
aussi.
C'est ma kryptonite.
Un peu, mais il m'a dit même quand, genre, j'ai, les hommes avec les cheveux longs, je trouve qu'ils ont pas l'air dignes de confiance. Et il m'a dit surtout quoi, ils les attachent. Mais en, de, tu vois, en Ned Stark, quoi. J'étais, ok. Okay. Mmh. C'est très spécifique.
J'ai envie de faire une confidence, mais je vais la faire à moitié parce que sinon ça va être trop long, trop creepy, trop intime et trop intrusif. Mais dans un podcast,
on veut tout savoir maintenant.
Grave. On veut la
dans
confidence.
Un podcast, on m'a demandé mon premier émoi érotique.
T'as dit un homme avec un tie and dye?
Non, bien sûr que non.
T'as dit un
homme avec des valeurs et des principes. Non, mais j'ai parlé de Sully dans Dr. Quinn. Vraiment, c'est enfant. J'ai eu ma. Pff, c'est trop.
Attends, c'est
je
ton premier
m'arrête
crush.
Là. Non, mais oui, on va dire crush.
C'est marrant
ouais.
Pour un 2002 comme référence, Dr. Quinn.
Ah oui, c'est marrant. Hein.
Attends, je Google. Je sais pas qui c'est. Est-ce que tu peux nous faire
attends,
une description?
Attends, c'est le mec avec les cheveux longs.
Oui, voilà.
C'est un peu le sidekick de Dr. Quinn, femme médecin, quoi.
Ouais, voilà. C'est d'ailleurs, c'est un blanc qui fait de l'appropriation culturelle parce qu'en fait, je crois qu'il est amérindien.
Mais ah ouais, Bella,
native américain.
Non, mais j'avoue, ouais, américain. Ça aurait marché de fou.
Non, mais j'avais genre 6 ans, quoi.
Mais c'est terrifiant.
J'avais 5-6 ans, fais voir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Non, ouais, en vrai,
voilà,
je comprends.
Ouais, voilà,
I get it.
Ouais, de ouf.
Genre, j'avais des amoureux à 5-6 ans, un peu éclatés comme ça.
Mais ressemblait une fève.
Non, mais depuis, je craque pour les magots cheveux longs, quoi. Mais genre, vraiment, il y a un conditionnement, c'est.
Genre, imprimé. Francis Lalanne, c'est ta cam et tout.
Non, non, c'est pas n'importe quel mec aux cheveux longs.
Pas tous. C'est-à-dire, c'est demain Darmanin, les cheveux longs, je suis pas sûr que ça suffise, quoi.
Ah,
non, c'est marrant.
Mais il se fera sûrement un Mad Bun parce qu'il n'est pas digne de confiance. C'est quoi ton kiff, Anthony, à part les hommes avec les cheveux longs, mais pas de tie and dye? Ce qui est, faut pas faire d'ombré.
Exactement, très bon résumé.
Mais faut avoir les cheveux longs.
Très bon résumé. Alors, mon kiff, c'est.
Tu n'as pas de notes aujourd'hui, c'est fou. D'habitude.
Tout est là.
Dans le reste des contenus qu'on produit qui ne sont pas Laisse-moi kiffer qui vient de commencer,
oui.
Tu as toujours des notes.
Tu peux
oui,
le faire.
Oui, bien sûr.
Tu peux le faire,
mon kiff, c'est le JT Mode.
Voilà.
Voilà, c'est le journal Twitch de la mode que une merveilleuse personne anime, à savoir moi.
J'étais là. Bah, c'est toi, du coup.
Alors, petit point contexte. Le journal Twitch de la mode, c'est une émission que j'ai lancée avec une streameuse qui s'appelle It's Saru. Sarah Fegak de son vrai nom.
Que vous avez pu croiser sur la chaîne Twitch de Mademoiselle.
Évidemment.
En 2021 bah, au moins, oui. Et au moins début 2022, je pense.
Voilà. Et donc, elle stream sur Mademoiselle, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, en plus de sa propre chaîne à elle. Et elle est passionnée de mode, elle a fait des études de mode. Et en fait, avec moi, elle anime cette émission qui existe depuis 7 mois maintenant. Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, où on invite généralement une intellectuelle qui a fait des fashion studies, quoi, qui a étudié la mode à l'université en tant que terrain de recherche universitaire, et pas pour couper des patrons, pas des patrons d'entreprise, mais des patrons de couture.
C'est dommage.
Excusez-moi.
on peut faire les deux.
Pas pour devenir créateur, créatrice de mode, mais pour réfléchir à la mode, quoi. Mm-hmm. Et justement, en parallèle de cet invité qui est plutôt côté académique, et ben il y a aussi une invitée côté créatif, créatrice, créateur, soit parce que il ou elle a fondé sa marque, ou bien cette personne est styliste, ou bien photographe, ou bien auteur, autrice d'un compte Instagram sur la mode, des choses comme ça, quoi. Et bref, donc chaque émission, il y a deux invités et Sarah et moi qui animons l'émission. Et bah c'est génial en fait. Et donc tout ça c'est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Mademoiselle et sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Et l'émission a lieu chaque mois sur Twitch en direct. Et le dernier numéro était vraiment un grand saut dans le vide pour moi parce que c'est la première fois que j'ai animé l'émission seule parce que Sarah était à New York, occupée, trop busy, booked and busy et tant mieux pour elle. Et du coup j'étais terrifiée à l'idée d'animer l'émission Twitch pendant 2 heures avec 2 invités.
Je suis sûre t'étais super.
Eh ben, j'espère que oui. et je vous invite à effectivement regarder l'émission sur YouTube et sur Twitch pour vous faire votre propre avis. Et justement, l'émission présentée comme ça a peut-être l'air relativement inaccessible, mais justement, je fais tout un travail de vulgarisation pour rendre le sujet accessible et intéressant pour les gens qui s'intéressent pas forcément à la mode, en fait. Et le but, c'est de parler au plus grand public pour se dire, mais en fait, la mode, c'est quoi ? Pourquoi il y a des gens qui défilent ? Pourquoi est-ce que ça arrive 6 mois plus tard en boutique? Pourquoi ça coûte si cher? Est-ce que ça pollue? Comment on fait?
Comment
on devient ça?
Comment on choisit ce que les gens y vont porter?
Ouais, voilà. Toutes ces questions-là, on s'y intéresse. Notamment, dans le dernier épisode, on avait invité... Enfin, je dis on, mais c'est moi. J'avais invité le créateur Grégory Azad, qui vient de Martinique, comme moi, et qui a fait des études de mode dans une grande école et qui n'avait pas forcément le réseau pour faire ça et tout. Et donc, il a un parcours hyper intéressant et sa première collection de fin d'études était passionnante, hyper belle et on la décrypte ensemble. Et avant ce décryptage-là, bah, on parlait notamment de comment les gens s'habillent en Martinique. Et c'est archi marrant. Enfin, on parle notamment de comment est-ce que... Enfin, dit comme ça, ça n'a pas l'air drôle, mais comment est-ce que aller au cimetière, c'est une occasion de se sursaper. Ouais, même prendre autre. L'avion, tu vois, genre c'est un truc que tu fais pas tous les jours et du coup tu te sursapes et voilà, et je trouve ça trop drôle.
Est-ce que c'est pour ça que t'es sapé en manif? Parce que c'est un peu une occasion exceptionnelle.
Ouais, on sait jamais, ouais.
Il y a des photographes et tout, on sait jamais.
Il y a des caméras, il y a des drones.
Imagine, t'es pris en photo avant de partir en prison, bah t'es pris en photo, tu vois.
C'est vrai.
Et c'est aussi parce qu'en fait, je supporte pas l'idée de garder des vêtements pour des grandes occasions. Chaque jour, c'est une grande occasion. Tu sais jamais si tu vas mourir demain, donc ou aujourd'hui, ou maintenant. Donc voilà, je me suis égaré. Je voulais dire qu'il y avait Grégory Assad dans le dernier épisode, et avec Christelle Bakima, qui est responsable communication dans le Web3. Et le Web3, c'est quoi? Bah, c'est une longue histoire, et je vous invite à écouter.
Teaser,
mon teaser.
C'est une longue histoire, et surtout, le Web3, c'est quoi, et quel est le rapport avec la mode? Bah, en fait, il y en a plein. Donc, écoutez le JT Mode.
C'est un peu le métavers, genre?
Ouais, c'est genre le métavers, okay, mais pourquoi est-ce qu'on s'habillerait de manière virtuelle? Ouais, et pourquoi est-ce que ça peut servir aussi le luxe et l'authenticité, et la traçabilité, les enjeux d'éco-responsabilité, etc., etc., etc. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais justement, c'est dit avec beaucoup de pédagogie, raconté avec beaucoup de passion. Et surtout, avec humour, parce qu'on est archi drôle. Voilà, donc écoutez le JT Mode, ça s'écrit la lettre J comme journal, T comme Twitch, plus loin de la mode, le JT Mode de Mademoiselle.
Et il y a une période, c'est genre...
C'est mensuel.
Oui, mais est-ce que c'est genre tous les derniers mardis du mois ou c'est alors, une fois par mois, mon gars, quand on peut, ce qui
c'est
est
okay, le hein. deuxième mardi de chaque mois.
Très bien, le soir?
Le soir de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle.
Abonnez-vous.
Avec abonnez-vous.
Et bientôt, ce sera en replay podcast. Pas tout de suite, parce que... Pas tout de suite.
Du coup, je ne l'ai pas annoncé.
Mais un jour.
Un jour, vous pouvez vous abonner.
Dans deux mois, je crois.
Voilà, et vous écoutez, qui écoutez cet épisode en 2047, déjà, bravo.
Vous aimez trop
on espère que ça va. En 2023, c'est déjà un peu chaud. On espère que pour vous, ça va, ok? Et qu'on est là aussi avec vous. Alors, peut-être qu'on ne fait plus LMK, mais on espère qu'en 2047, ça va.
Mais attendez, le kiff dans le kiff, c'est justement faire cette émission, l'animer. Et justement, quand je l'animais... Je serais à me dire, waouh, c'est pour ça que je suis devenue journaliste. Enfin,
oh, trop cool!
Et ouais, trop j'étais cool. trop à fond. Je serais en train de me dire, waouh, purée, je suis en train d'écouter des gens parler de leur passion. Et puis ça m'intéresse de ouf. Et puis en fait, on la partage avec d'autres gens et on essaye de rendre ça accessible avec pédagogie, avec humour. Et j'étais genre, waouh, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier en fait. Et j'aimais trop. Et j'étais trop à fond.
C'est trop bien.
Et aussi, je me suis dit, waouh, mais en fait, si on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais fait ça, moi qui suis giga timide et introverti, je serais pissé dessus. Et en fait, là, je l'ai fait.
Et tu ne t'es pas pissé dessus.
Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait les bisous, t'es pissé dessus.
Donc voilà.
Et si vous vous dites, oui mais moi la mode, j'y connais rien, ça m'intéresse pas trop et tout, et que vous n'êtes pas sûr de, est-ce que vraiment cet homme qui me vante son émission Twitch va réussir à m'intéresser à la mode et à la rendre accessible, allez lire un ou deux articles d'Anthony Vincent sur Mademoiselle, vous aurez une bonne idée de où la réponse est oui. Puisque moi-même qui suis une quichasse en mode, tu m'as appris beaucoup de choses, et t'es vraiment un gros nerd de la mode, du coup tu remontes à des trucs hyper niche, mais en fait tu les apportes de façon super fluide, avec humour, avec des refs et tout. Donc, je crois complètement à ta promesse.
Oh, du JT Mode de Mademoiselle.
Aïda, c'est quoi ton kiff?
C'était trop bien comme kiff, Anthony.
Oui.
Mon kiff est un livre. Mon kiff est un livre qui a été publié aux éditions de La Découverte fin 2022. Je sais plus, j'ai plus la date sous les yeux, mais ce n'est pas très grave.
Après, on a la moitié des infos.
Google existe. C'est un bouquin qui s'appelle Vieille fille d'une autrice qui s'appelle Marie Coq. Marie comme le prénom Marie et Coq K-O-C-K. Donc Marie Coq est journaliste et elle a une quarantaine d'années quand elle commence à écrire ce bouquin, et en gros le point de départ c'est de parler de donc la vieille fille, c'est-à-dire dans la culture populaire, bah en gros la meuf qui s'est pas mariée, qui a pas eu d'enfant,
qui n'a pas vécu finalement, du coup.
Bah bien sûr.
Qu'y a-t-il d'autre dans la vie?
Sans homme tu ne deviens jamais une femme.
Bien sûr.
Et elle puise dans son expérience personnelle pour retracer un petit peu les contours de ce qu'on considère une vieille fille aujourd'hui en 2022-2023. Le livre s'ouvre un petit peu sur un aspect historique et anthropologique du terme vieille fille dans les contes de fées, dans des choses comme ça, qui sont des discours en vrai que on entend régulièrement, mais peut-être pas de cette manière-là. En vrai, elle fait un taf hyper rigoureux là-dessus et c'est vachement intéressant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans ce bouquin, c'est que après cette partie-là, où donc elle délimite un petit peu les contours de qui est la figure de la vieille fille, qu'est-ce qu'elle représente historiquement depuis des siècles en France et tout, elle utilise la perspective de cette personne qu'on appelle la vieille fille comme un point de départ à une posture un peu anticapitaliste. Et en fait...
Let's go. Encore une fois, les gens vont-ils réussir à deviner ton orientation politique en écoutant enfin, ce premier épisode de LM?
D'où viens-je?
Sauras-tu garder ce voile de mystère?
C'est François Bayrou.
Dans quelle étagère?
Personne ne saura jamais pour qui j'ai voté récemment. Donc elle utilise ce point de départ comme voilà, une posture en disant « Ok, en fait, à partir de la construction de la vieille fille qu'on imagine... bah, notamment dans plein de séries, par exemple, on a la représentation de la vieille fille comme la personne qui est pingre et hyper avare parce qu'elle n'a pas voulu donner la vie et partager sa vie avec un homme, machin.
Elle a voulu garder tout son argent pour elle.
Mais comme en même temps, elle n'en a pas.
Yes, queen.
Parce qu'elle ne s'est pas mariée et qu'elle n'a pas forcément hérité de la fortune familiale qui allait aux gens qui allaient avoir des descendants, en fait. Il y a aussi ce truc qui, pour le coup, fera peut-être écho à des gens d'aujourd'hui parce que moi, j'ai eu écho que c'était des vraies conversations aussi dans les familles de certaines personnes que je connais qui possèdent du patrimoine, évidemment, condition sine qua non, de dire un peu, bah ok, en fait, nous, si on veut léguer la baraque, le jardin, l'argent ou je sais pas quoi, on va le léguer à la personne qui va avoir une descendance pour que ça reste dans la famille.
Et si mes parents, ils lèguent plus à ma grande sœur qu'à moi parce qu'elle, elle a fait un gosse et pas moi, voilà, je brûle des trucs.
Bah ouais.
Genre, moi, je suis ton enfant quand même, tu vois, genre, j'ai pas procréé, on s'en fout, l'idée, c'est pas que ça reste dans la lignée sanguine où on s'en bat les couilles, mes parents, ils sont morts, ils sont pas là pour le voir, tu vois, enfin, vraiment, on est où, là? C'est pas on n'est pas au Moyen-Âge, en mode, oui, mais on va, bref. Ah, ça m'a choqué.
Bah, le nom de famille, on laisse le domaine familial, là où le nom de famille continue, enfin, voilà, elle part un peu de ce point-là, et du coup, t'as tout ce truc de la construction de la VFI qui... participe moins au système monétaire que les autres parce qu'elle est un peu mise au banc de la société qui produit pas autant de richesses que les autres parce qu'en plus elle a pas d'enfants mais les enfants ils vont payer pour notre retraite donc elle est égoïste, tu vois, il y a un peu ce truc.
De toute façon, elle a pas fait d'enfants donc elle est un monstre d'égoïsme.
C'est évidemment.
Sûr. Elle n'a pas de cœur.
Et en plus, aucun homme ne l'a choisi pour la faire monter dans une calèche et la marier à l'église du village donc voilà, elle a perdu quoi. Et à partir de là, elle trace aussi tout un portrait de comment on considère la famille nucléaire, le couple un petit peu traditionnel et le couple hétéro autour de la consommation, en fait. Et il y a cette idée qui est hyper, hyper intéressante. Après, franchement, peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui en ont parlé avant et tout. Moi, c'était la première fois que je le voyais traduit en ces termes. On parle beaucoup de réinventer l'amour en ce moment. Il y a plein de gens qui écrivent des bouquins là-dessus et tout. C'est la première fois que je vois cette perspective-là aussi qui est plutôt tournée autour de ce truc de... Ben, en fait, il y a un enjeu capitaliste hyper fort dans cette matrice hétérosexuelle de la construction du couple. Et il y a un trajet un peu tout tracé qui va de... on est ensemble... on achète un bien à deux, on crée une famille. Et en fait, autour de tous ces événements-là qui sont le schéma tracé, on se marie, ça coûte cher, blablabla. En fait, il y a une manière d'orienter sa vie autour de la consommation et parfois de la surconsommation. T'as plein de gens, évidemment, à l'échelle individuelle qui essayent de sortir de ces schémas-là. Hein. C'est pas la question, mais voilà.
Non,
elle
mais
trace
vois,
cette espèce
vu,
de
je
chemin.
Crois que j'ai vu une meuf tweeter l'autre jour. Je vais me marier et les gens me demandent ce que je sais pas comment ça s'appelle, la liste de mariage, la liste des cadeaux que tu veux,
ouais.
Ou le trousseau, peut-être c'est ça. Ou à la base, tu demandais des trucs. En fait, quand tu te mariais, c'est le moment où tu emménageais dans un nouveau logement avec la personne. Donc tu demandais du linge de lit, des services de table, voilà,
une
des
machine à café.
Entières, une machine à café, des trucs quand même conséquents. Et en fait, la personne disait, mais ça n'a pas de sens en 2023, on me demande mon trousseau, j'habite avec mon gars depuis 5 ans, on a tout ce qu'il nous faut, enfin, on n'a pas besoin de... Et du coup, elle est là, il faut trouver quoi d'autre demander.
Une cagnotte pour le voyage de noces.
Une cagnotte pour le voyage de noces, c'est la version un peu plus classique, mais même la dynamique du voyage de noces est aussi... tu vois, on t'encourage pas à le faire au camping pas loin de chez toi ou même à le faire de façon économe. C'est plutôt justement, on va te payer un beau voyage, donc tu vas consommer. Mais il me semble qu'à la base, j'ai pas fait anthropo, hein, donc vous me direz en DM et j'irai corriger si je me trompe, mais il me semble qu'une des... Un des leviers qui a mené à l'invention du mariage tel qu'on le connaît, c'est contrôler la propriété. Qui possède quoi et à qui c'est... Et contrôler l'héritage. Donc
tout
en fait, si t'as... un duo qui a plusieurs enfants, mais ils sont pas forcément liés par le mariage. T'as des gens qui vont faire des enfants avec différents partenaires. Ça devient très vite compliqué quand tu commences à avoir une maison que t'as construite, des richesses, quand les gens ont arrêté d'être juste, de vivre avec ce qui leur permet de survivre de moins environ. Bah, ça a été un des trucs qui a fait qu'on a inventé le mariage. Donc, ça a toujours été pour moi lié économie, mariage, couple hétéro, enfin, tout ce qui est la norme
dans un monde capitaliste, la norme est forcément faite pour encourager le capitalisme, tu vois.
Ouais, carrément, carrément. Et du coup, c'était hyper. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir sa perspective, qui est à la fois une perspective universitaire, parce qu'elle fait plein de recherches, elle cite plein de recherches dans l'ouvrage, mais c'est aussi une perspective vécue. Donc, elle rajoute aussi la manière dont elle se sent perçue socialement, les conversations qu'elle a autour d'elle, la manière dont elle voit, les autres s'organiser, des gens qui partagent sa situation ou qui la partagent pas. Souvent, qui la partagent pas d'ailleurs. Car être en couple hétéro quand on est une femme, c'est parfois invivable, mais ça permet aussi de gagner un certain nombre d'avantages socialement. Et voilà, donc elle retrace un petit peu ce schéma-là, elle parle de comment elle a évolué autour de sa position justement de vieille fille. Elle arrive à sortir de cette idée de célibat comme un moment d'attente ou comme un truc qui est complètement subi. Et elle dit ok, en fait moi à partir du moment où j'ai tiré j'ai fait un trait sur cette possibilité d'être en couple et j'ai arrêté de passer mon temps à me dire peut-être que je vais trouver quelqu'un et après on fera ça, elle a commencé à avoir une vision d'elle, de ses projets et du monde qui en fait était presque radicale, tellement c'est une vision qui est très peu partagée. Soit parce que t'as
se projeter dans l'avenir et dans être une femme qui s'accomplit, qui vieillit et qui du coup construit sa propre vie, que si t'enlèves mariage, enfant, enfin même couple, tu vois, pas juste mariage, mais t'enlèves couple, enfant, t'as déjà au moins la moitié de ce que la société te présente qui saute. Si t'as pas envie d'accéder à la propriété, etc., enfin s'il y a d'autres choix qu'on te présente comme des étapes normées de la vie que t'as pas envie de faire, assez vite en fait t'as un boulevard des possibles et ça peut, je pense, t'amener rapidement à remettre en question du coup pourquoi on m'a dit que je voudrais faire autre chose, enfin genre pourquoi on m'a fait croire que je voulais tout ça, en fait je peux faire ce que je veux de ma vie et peut-être lutter contre le système qui m'a fait perdre du temps en me faisant croire que je voulais un mari, des enfants et une maison, tu vois.
Ouais, carrément, c'est vraiment un petit peu la direction de l'ouvrage. Et puis après t'as aussi tout l'aspect solitude qui va avec, parce que quand tu te retrouves sur ce boulevard des possibles, tu te rends aussi compte que vous êtes peu à l'emprunter et que autour de toi t'as plein de gens qui vont dans des directions différentes et qui voient la tienne parfois avec bienveillance, parfois aussi avec pas mal de mépris, et ça les écarte. Elle revient aussi sur la question de la thune, qui est un sujet important dont on parle beaucoup dans plein d'autres ouvrages, évidemment, mais sur la thune des femmes célibataires sans enfants, de comment tu te débrouilles, comment tu fais quand t'as 40 ans et que tu te dis « Ok, là je suis solo dans une profession qui est un peu précaire et j'habite encore dans un 28-29 mètres carrés, tu vois, comment les autres me perçoivent à cause de ça ?» Et voilà, enfin bref, c'est très très riche comme bouquin, il est assez long. Il y a aussi une partie très touchante où elle parle de son histoire à elle et elle parle... Enfin, je sais pas si je le raconte, je vais le spoiler. En même temps, c'est un essai, on peut pas tellement spoiler un essai, non ?
On peut.
Mmh. On peut ?
Je pense qu'on peut.
Ok, je raconte pas. et puis en même temps, enfin bref. Elle, ça sert à rien. Elle parle aussi d'elle et de ce qui l'a amené à écrire ce bouquin. Et voilà, c'est un bouquin qui est très très beau, très très smart, très innovant dans sa manière de présenter le couple, présenter cette question de la vieille fille, alors même qu'encore une fois, il y a plein de choses là-dessus qui sortent en ce moment. C'est une trop bonne lecture. Trop bonne lecture si vous êtes célibataire, trop bonne lecture si vous êtes en couple, trop bonne lecture si vous êtes une meuf, si vous êtes un mec, si vous êtes une personne qui a ni envie de se dire meuf, ni mec, peu importe. C'est une bonne lecture pour tout le monde et ça donne plein de billes aussi sur comment vivre de manière un petit peu plus anticapitaliste et comment réinventer des possibilités qui soient pas juste consuméristes de changer un peu les choses et de s'inventer une vie différente. C'est super. Lisez Marie Coq, elle mérite.
Ça a l'air super.
Ça a l'air hyper intéressant.
Ça a l'air hyper intéressant, ouais.
Mm-hmm. Et je pense que peut-être qu'un jour, j'espère, le concept de vieille fille et de vieux garçon disparaîtront, tu vois. Tout comme, je sais qu'il y a, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était assez présent, les Catherinettes. Le fait qu'à 25 ans, c'était encore célib ou voire encore vierge, il y avait tout un petit rituel pour foutre la honte, quoi. En mode, t'es trop vieille pour le marché, mais parce que ça vient d'une époque où les gens se mettaient en couple bien plus jeunes. Et c'est un peu l'équivalent de, on te met une gifle à tes premières règles, tu vois. Ça se fait
quoi
encore.
Mais attends.
C'est une tradition aussi dans certaines cultures de quand une fille a ses premières règles, on lui met une gifle pour. Enfin, sa mère lui met une gifle, ou sa tante, en tout cas une figure d'autorité féminine, lui met une gifle pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde des femmes, ce qui est lourd de sens quand on y réfléchit.
Bah en tout cas, c'est lucide, mais...
Ouais, c'est lucide, mais je suis pas sûre que ce soit bien explicité au-delà de... Putain. Allez hop, celle-là, tu l'auras pas volée, bienvenue, on est bien entre nous, voici comment absorber le sang. Donc voilà, les Catherinettes, je pense que, à part dans certains milieux peut-être un peu plus tradis, ça se fait plus trop, même le mot n'est plus très connu.
Ouais, non,
peut-être qu'un jour, on aura le même regard sur vieille fille et vieux garçon, où ce sera tellement... Parce qu'aussi, pour moi, ça a plus trop de sens de parler de vieille fille dans un monde où les gens ont plein d'étapes dans leur vie, là où avant, c'était très streamliné. Mais si, à 45 ans, tu décides que tu vas... le couple, c'est plus pour toi, mais qu'en fait, t'as passé 10 ans en couple dans ta vie, bah ça, c'est pas pareil que d'avoir jamais été avec quelqu'un de toute ta vie, tu vois. Tu peux avoir vécu... une histoire hyper deep, ou même si t'as eu plein de couples mais qui ont tous duré, je sais pas, entre 6 mois et 3 ans, bah t'as vécu des trucs. Enfin, c'est aussi une vie... Ça a plus trop de sens maintenant qu'on peut avoir des vies quand même plus souples sur les choix qu'on fait. Donc espérons qu'un jour, il n'y ait plus de bouquin qui s'appelle Vieille fille, mais en attendant, vous pouvez lire Les Vieilles filles de Marie Coque.
Exactement. Merci d'avoir écouté mon kiff un petit peu désordonné, car c'est vendredi.
Non, c'est très bien.
Mais non, c'est très,
Mathis,
très bien.
Mathis, c'est quoi ton kiff?
J'ai hésité parce que je me suis dit « Ah, j'ai fait un billet d'humeur un peu gaulerie, mais peut-être je vais pas en parler parce que je parle tout le temps de mes travaux et c'est bien de parler d'autres choses. » Et que pour une fois, j'ai fait des expos dans ma vie. Et du coup, c'est important d'en parler parce que ça n'arrive jamais. Voilà. Donc je ne vous parlerai pas de cet article qui s'appelle « Vous êtes milliardaire, si jamais vous êtes milliardaire. Voilà 5 activités pour vous occuper en avion. Voilà. »
Vous êtes milliardaire ? Arrête.
Ouais, bah c'est un peu l'idée de l'article, hein. C'est voilà. Donc dès le chapeau, je précise que si voilà pour le trajet pour aller vers la boulangerie, en tout cas, vous avez quoi vous occuper.
C'est chiant.
Voilà. non, je voulais vous parler du coup de deux expos que j'ai vues à Bruxelles, parce qu'évidemment, quand j'étais à Bruxelles, il faisait
moche.
Voilà, super. Il faisait moche et
j'allais dire fin.
Il faisait
aussi,
faim.
Mais y a des frites.
On a passé notre temps à bouffer, hein, globalement. On a fait bouffe, musée, bouffe, musée.
C'est vraiment super.
La Bruxelles vie, j'ai envie de dire.
La Bruxelles vie. Donc il faut savoir que moi j'aime pas trop les expos en général. Les musées j'aime bien, mais je suis assez rapide dans le sens où en fait j'ai pas beaucoup de grilles savantes, je retiens rien. C'est vraiment, c'est terrible, c'est une forme d'art sur laquelle je ne retiens jamais rien.
T'es juste en train de vibrer, quoi. T'es là en mode just vibing, et après tu sors et t'es là, j'ai bien vibé.
On est totalement là-dessus. La photo me touche, ça oui, mais tout ce qui est peinture, tout ce qui est sculpture, je suis vraiment... Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas plaisir à voir certains trucs. Typiquement, du coup, la première expo que j'ai vue, de base, j'étais trop content d'aller au musée Magritte, parce que Magritte, pour le coup, ça me parle beaucoup, parce que c'est des images assez fortes qui me restent en tête, et que je trouve qu'il n'y a pas besoin de les surintellectualiser, il n'y a pas besoin d'avoir un gros contexte pour les apprécier. Tu peux avoir un petit plus en disant « Ah oui, l'œuf, ça représente la poésie, blablabla. » Ça peut être intéressant, mais tu peux quand même juste être moi, regarder un tableau et faire « Ah, oh, super !» Et c'est très bien. Et ça procure du bonheur, et j'aime bien quand il y a une satisfaction un peu immédiate, parce que je suis la Gen Z et que je suis pas patient. Et du coup, en fait, en sortant de cette expo-là, il y avait la collection permanente qui avait pas l'air sur le papier pour quelqu'un qui s'y connaît pas particulièrement intéressante. Enfin, c'est beaucoup de photos de monarques qui avaient la mauvaise idée d'être riches et qui, du coup, ont fait des tableaux d'eux en train de faire la gueule. Enfin, classique, quoi.
Et tu n'avais pas les articles de Matisse pour savoir comment s'occuper pendant leur voyage en avion.
Et c'est dommage. Tant mieux, il n'y avait pas d'avion. Ils auraient eu le seum à la fin de l'article. Putain, ça a l'air bien le jet quand même.
Putain, ça a l'air vraiment super sympa. Nous, on est dans des calèches là, ça fait mal aux fesses et tout.
Tu fais toi qui font la gueule sur les tableaux. Et en fait, on a vu une petite salle. Donc, j'étais avec Camille, qui est donc la maman de Ruby et ma meilleure amie, qui du coup m'a dit: bah, attends, regarde, il y a une salle sur Frida Kahlo. Et moi, Frida Kahlo, je roule des yeux. Chaque année, on a 30 000 expos sur Frida Kahlo. Et c'est toujours
si
avec.
Si tu vas jamais les voir.
Grave. Non, mais pour le coup, j'avais vu celle au Palais Galliera, etc. Et du coup, la biographie en large, en travers de Frida Kahlo, où on insiste sur le traumatisme, etc., qui est véritable. Juste, en fait, on en fait une espèce de femme martyr, et le seul prisme de lecture qu'on a dessus, c'est la souffrance. Et là, il y a une expo.
Non, mais je pense que peut-être aussi, c'est une forme de recalibration par rapport à une récupération hyper consumériste féministe de Frida Kahlo.
Ah, mais totalement.
En fait, au moment où Sephora met la gueule de Frida Kahlo retouchée sur des palettes, peut-être que c'est pas plus mal, peut-être que ça vient aussi de là, cette insistance sur.
Ouais.
C'était vraiment une personne qui a une vie hyper riche et complexe, mais qui n'était pas une icône glamour Sephora. Peut-être que les gens insistent parce que en face, le consumérisme féministe
c'est vrai.
Essaye vraiment de la déposséder pour le coup de son histoire et de son héritage.
Mais voilà. Du coup, dans les musées, je trouve qu'on insiste beaucoup sur ça et on insiste, je trouve,
pas assez sur d'autres pans de la culture qu'on peut vraiment genre apprécier et trouver genre beau, oui. esthétique, intéressant. Et
oui, il y a quand même plein d'autres angles, évidemment.
Exactement.
Sur l'œuvre de Frida Kahlo, et peut-être qu'il est temps de changer un peu.
Exactement. Et du coup, au musée royal, donc, de Fine Art Museums de Belgique.
Oui,
en
c'est
gros.
Vrai qu'ils ont un roi encore, ceux-là.
Oui, ils ont encore un roi, on sait pas pourquoi. Je sais pas trop où ils
on
le mettent d'ailleurs. Mais dans un palais, I guess.
Ma petite sœur m'envoie des cartes postales des fois du roi parce qu'elle habite à Bruxelles. Et c'est trop gollerie. Juste, voici le roi. Ça te fera plaisir. C'est le chef de nous.
Fais ce que tu veux de cette info. Et du coup, ils ont en fait laissé une artiste un peu interpréter l'œuvre et la personne de Frida Kahlo dans une expo qui donc passe donc dans ce musée-là jusqu'au 12 février. Et l'expo s'appelle Miradas de Mujeres. Et en gros, c'est une artiste qui s'appelle Isabelle de Borchgrave.
Ça veut dire regard de femme.
Ça veut dire regard de femme.
Oh my god, j'ai fait allemand, you guys. Hein. Franchement,
je parle trop bien espagnol.
Claro que si.
Claro que si.
Je m'arrête là parce que vraiment, je pense qu'il y a un moment où je vais être raciste envers les Espagnols.
Oui, ça va être gênant. Et donc, Isabelle de Borchgrave, en fait, elle a choisi de travailler avec du papier à reconstituer dans des espèces de petits stands, dans une pièce qui est circulaire, différentes tenues, ambiances, esthétiques, entre guillemets, autour de, à la fois, l'œuvre de Frida Kahlo et tout l'univers dans lequel elle évolue. Donc, en fait, il y a des reproductions de robes, etc., avec un vrai travail sur les volumes, sachant que tout est en papier, ce qui est absolument incroyable parce que ça se voit pas du tout. Et du coup, il y a plein de petits animaux, il y a des bails d'origami, etc. Et du coup, il y a un truc très... comment dire, vous passez vraiment d'un stand à l'autre et ça montre plein de différentes, je pense, époques et même instances dans la façon dont elle a travaillé dans le temps. Et du coup, vous êtes transporté dans des univers, donc il y a un côté assez superficiel, mais qui est un peu revendiqué et qui en même temps peut être assez chouette, je trouve, comme première étape pour appréhender le travail et l'univers et l'imaginaire d'une artiste. Et donc, on a cette salle-là avec ces différents stands, avec des espèces de petits mannequins, en fait, qui sont habillés avec ces trucs en papier. Et c'est vraiment très, très, très beau à voir. Et c'est un travail qui est, genre, minutieux et tout. Et au milieu, vous avez un espèce de dôme dans lequel ils projettent un film. Et au-dessus, vous avez un lustre avec plein de petits trucs en papier qui tombent et tout. Enfin, il y a un travail très, très délicat et qui est un travail de mise en scène, d'une vraie scénographie de l'exposition, ce qui est très, très plaisant à voir. On peut vraiment se promener, on peut y prendre le temps. Il n'y a pas énormément de choses à lire ou à apprendre, c'est très sensoriel. Et moi, ça m'a fait du bien pour le coup parce que j'ai été très surpris de l'expo. Et en fait, elle se fait sur deux étages. Si jamais vous avez la possibilité d'aller donc à Bruxelles, c'est jusqu'au 12 février, je rappelle. Donc vous avez l'étage d'en bas, en effet, avec ces petits stands-là et le truc central. Et en fait, le dôme est ouvert sur l'étage du dessus. Et sur l'étage du dessus, il y a une espèce d'hôtel un peu Dia de los Muertos avec toute une esthétique qui est développée là-dessus et plein d'autres choses intéressantes. Globalement autour de Frida Kahlo, mais plus largement de la culture dans laquelle elle s'inscrit, etc. Et en fait, ça vous permet derrière de faire comme moi, c'est-à-dire vouloir se renseigner encore plus pour se dire « Ah, mais trop drôle, je sais pas à quoi ça fait écho et c'est assez intéressant à voir. » Et Manon est en train de twerker devant la porte pour essayer de me déconcentrer, ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc voilà, donc j'ai vu cette première expo qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a parlé et qui, en tout cas, reste dans ma tête, alors que les portraits de gens moches du 15e siècle, je m'en tape. Pardon, il y a peut-être des aficionados, bravo. Et après, on a vu
je
une
pense
exposition.
Qu'il y en a deux, trois, ouais, des gens qui aiment bien les peintures de rois du 15e siècle, il y en a un peu, ouais.
Bah, I guess, hein, le musée était quasiment complet, donc I guess. Et donc, il y a une autre expo qui est passée aussi à Bruxelles, qui m'intéressait parce que, en fait, encore une fois, j'y allais avec Camille, et Camille, je la connais. Camille, elle n'arrive pas à se concentrer très longtemps sur les choses. Il lui faut des expositions immersives, il lui faut des trucs sensoriels, il lui faut des choses avec du son, de la lumière, globalement. Comme une enfant. C'est vraiment une enfant
un
dans les musées. Un labrador ou un enfant. C'est à peu près la même chose. Il y en a un des deux qui est mieux.
En vrai, moi, quand je suis dans un musée, dès qu'il y a un truc où t'as le droit de toucher, où il y a des boutons, où il y a machin, je suis là en mode yes, yes, on va faire le truc trop bien. Donc je comprends.
Bah voilà, j'ai eu de l'acné, j'ai toujours touché les boutons. Et donc, dans cette deuxième expo, c'était Magnetic Flows. Et pareil, c'est jusqu'au 12 février, donc c'est facile à retenir. Et cette expo-là, en gros, c'est, je crois que c'est équivalent à ce qui est passé à la Gaîté Lyrique à l'époque, donc qui est un centre à Paris dans lequel il y a plein d'événements différents. Bref, je vais pas faire la pub
pas
de la
Gaîté Lyrique. Pas mal autour du numérique, ouais. Donc ouais, pas mal d'expos voilà. Avec des lumières, des bip bip, des boutons, des machins, quoi.
Exactement.
C'est moins portrait de gens trop riches du 15e siècle.
Voilà, c'est
pas
c'est
très
moins,
le ton de la Gaîté Lyrique.
C'est vrai. Et là, pour le coup, donc c'est un lieu à Bruxelles qui s'appelle La Vallée. Et qui est très chouette parce que du coup vous avez ces espaces dans lesquels
j'ai la tribu de Dana dans la tête maintenant.
De quoi?
J'ai la tribu de Dana dans
oh
la
non.
tête maintenant.
On ne chantera pas ça.
Un épisode jukebox mais pas de
tout
très
à fait.
Qualité.
Mais celle-là on n'a même pas besoin de vous la chanter.
Un épisode
vous l'avez
trauma,
déjà.
Ouais.
Encore une fois une culture de 2002 extrêmement précisante.
C'est à cause des manifs. Et donc, en fait, vous avez différentes salles avec à chaque fois une installation qui est visuelle avec des néons, des choses comme ça. Et en gros, c'est des trucs où ils ont travaillé de concert, petit jeu de mots, avec des artistes musicaux et tout un collectif qui s'appelle le collectif Scale, si je dis pas bêtises, qui du coup travaille avec les lumières. Et en gros, il y a des moments où vous avez un casque et du coup la musique réagit à ce truc là et puis il y a d'autres moments où il y a des boutons et c'est vous qui gérez le nombre de pistes du morceau qui sont jouées et en même temps du coup le nombre de, je sais pas, de néons, de projections, de quoi que ce soit que ça allume.
Trop cool.
Et du coup, moi qui suis un bébé, j'étais vraiment ouais, je suis un DJ, j'étais très heureux.
Je comprends.
Et c'est, en fait, c'est un collectif qui travaille avec plein d'artistes depuis longtemps, qui avait travaillé notamment avec un artiste dont le visuel m'avait marqué parce que c'était sa pochette d'album. Il avait un espèce de gros cercle qui faisait presque un parcours de roller coaster, on va dire, autour de lui, avec des néons qui s'allumaient et tout. Et il avait mis ça dans un clip. C'est un artiste qui s'appelait Prequel ou Prequel, je sais pas comment on dit ça. Et cet artiste-là, en fait, ce que j'ai appris, donc a priori, soit il a travaillé directement avec eux, soit il le loue parce qu'ils le font louer à des artistes pour des scénographies de spectacle, tout simplement. Et ce que j'ai trouvé chouette là-dedans, c'est que du coup, ils ont travaillé avec plein de gens différents, ça valorise des travaux d'artistes plutôt de musique électronique. Et je trouvais que c'était une bonne manière pour des gens qui connaissaient pas forcément la musique électronique d'appréhender ça comme un truc un peu sensoriel que tu ressens, parce que c'est une musique qui, pour le coup, peut être des fois difficile à écouter en tant que telle. Je pense à des trucs, je sais pas, expérimentaux, etc., des choses comme Superpose, même, qui vont être très planantes, qui se dansent pas forcément, mais et qui ont pas forcément de paroles, et du coup, ça ressemble pas à une chanson. Mais quand t'as truc avec de la lumière et tout,
c'est les suggestions YouTube de mon gars, quoi. C'est des vidéos de 27 minutes où c'est un seul titre. T'as un instrument et un gars avec un clavier, tu vois jamais sa tête. Il y a un mur de vinyle derrière lui qui fait environ la taille de mon appartement. Et on a un grand appartement maintenant. Et c'est genre des vibes, tu vois. C'est genre.
Bah, ça peut être ça, ou ça peut être des trucs qui prennent un peu plus forme, tu vois. Et il y a de l'entre-deux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il balaie vraiment une palette large de musique électronique. Et moi, la musique électronique me passionne. Donc, j'étais trop contente de vivre ça, de voir ça. Et de voir des gens autour de moi, appréhender un peu tout ça et se dire, putain, ça se ressent. Et tu peux fermer les yeux et ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tu fais comme tu veux. C'est une expo qui, en totalité, dure 50 minutes. Mais si tu veux rester plus, tu restes plus. Surtout que moi, j'ai fait une nocturne où il y avait un DJ set qui se passait à côté. Et du coup, il jouait avec une installation et deux meufs qui mixaient. Et c'était assez chouette, quoi. Top. Donc voilà, j'ai passé des très bons moments dans les musées, dans les expos à Bruxelles, et ça m'a permis de me rappeler que, en fait, j'aime bien les expos, juste quand c'est pas vivant, je me sens exclu et genre j'arrive pas à m'intéresser, j'arrive pas à accrocher.
Alors,
quoi.
Je prends souvent non parce que je fais pas souvent d'expos, parce que comme toi,
tu prends la
alors j'ai pas beaucoup de culture G, histoire de l'art, donc pareil, bah, j'ai pas beaucoup de clés pour comprendre les œuvres. Donc j'aime bien aussi les expos un peu interactives, un peu vivantes pour ça. J'avais parlé du fait que pour le coup, l'art contemporain, j'aime vraiment beaucoup parce que déjà souvent, il y a un aspect, je sais pas. C'est pas que figuratif, quoi. Il y a un aspect provoque, un aspect inattendu, un aspect concept. Et bah, en fait, c'est tellement chelou que je suis là. Personne peut m'expliquer pourquoi je dois comprendre. C'est juste, genre, pour le coup, tu vois, tu vibes, quoi. Mais pourquoi ce tableau du 15e siècle est plus important que le reste des tableaux du 15e siècle? Si tu le sais pas, c'est genre.
Ouais.
Est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli? C'est tout ce que je peux savoir. Ouais, et du coup, je prends les audio guides souvent. Bah, faut avoir le temps parce que du coup, à chaque tableau, potentiellement, t'as 10 minutes d'explication. Mais déjà, bah, ça te force à prendre le temps et t'es pas obligé de le faire pour toutes les œuvres. Mais
ils parlent pas vite dans les audio guides.
De quoi?
Il parle pas vite, tu peux pas régler la vitesse à laquelle il parle dans les audio guides.
Alors non, mais je ne règle pas, je n'écoute pas mes podcasts en 1.5 complet, tu vois. Je garde. Peut-être que ça peut être un business de faire les premiers audio guides adaptés aux gens qui ont pas le time et qui sont de la génération Z comme Anthony et Mathis, bien sûr.
Évidemment.
Qui du coup ont un temps d'attention extrêmement limité. Et alors, je suis vraiment la scrolleuse folle, donc je vais pas juger. Mais j'aime bien avoir des audio guides. Je me souviens que j'avais fait le musée Tintin à Louvain-la-Neuve, du coup. En Belgique et l'audio guide est hyper bien. Alors pour le coup, bon, bah, Tintin, je connais un peu plus que les peintures de roi du 15e siècle, mais l'audio guide était hyper bien et le parcours était hyper simple à piger, et en même temps tu pigeais les blagues, les nuances et tout, voilà, c'était rigolo. Donc, peut-être les audio guides peuvent vous aider si vous aussi vous êtes un peu largué au musée généralement, ou les visites guidées. En vrai,
on peut faire peut-être une petite parenthèse pour dire au roi du 15e qui nous écoute qu'on a rien contre eux.
Si, le roi si, du 15e, deux, trois trucs. Si, on a deux, trois trucs contre le fait que, oui, non, les rois, globalement, c'est plutôt d'accord avec la décision politique qu'on a prise, fut un temps, au 18e siècle. Forme de
sans définitive. La préciser.
Oui. Après, on est revenu dessus. Après, on a dit, nah, quand même, non, on avait raison, c'était une connerie, on revient pas dessus. Enfin, bref, c'était après, on a eu un empereur. Enfin, bref, débat, quoi. Mais, bon, maintenant, on a Emmanuel Macron. Que dire? Que dire?
Que ne pas dire, surtout.
Back to the good old days.
Pour rester dans le légal.
Sachez que j'ai ouvert Twitter pour tomber sur un DM de Aïda que je n'avais pas lu, qui me dit Mon mariage de rêve, c'est une grosse manif avec des sandwichs merguez de la CGT et une batucada. Ma mère m'a trop fait écouter Manu Chao et c'était avant qu'on tourne cet épisode.
C'est hyper précis.
Donc on est dans le Manu Chao c'était... et une batucada, c'est hyper précis.
J'ai fait partie d'une batucada. Je laisse cette
information.
C'est quoi, mais c'est quoi
C'est un genre de cortège, ça vient du Brésil, je crois. Et c'est oui. un genre de cortège dansant, musical.
J'avais 8 ans, laissez-moi.
Avec des gars avec des tambours et tout, machin. Ils ont des costumes, ça ressemble un peu.
Mais c'est très carnaval, quoi.
Oui, voilà.
Dans l'idée.
Et bon, tu viens du Nord, mais c'est pas...
Bah ouais, c'était le petit truc du conservatoire où je faisais des percus, on m'a un peu forcé, on m'a dit « Bah si, rejoins, bah si, bah si, bah
ah,
si
yes. !» bah,
Et du
rapide,
coup, je me suis retrouvé à
7-8
ans à faire ça, quoi. C'était
wow.
pas... Ouais. J'étais pas très bon, évidemment. J'ai été viré plus ou moins.
Si vous voulez demander à Ria en Aïda, en mariage, autour d'une batucada avec un sandwich merguez à la prochaine manif, tentez, shoot
Pour
your shot.
Pour le contexte, c'était en réponse à une photo que Mimi avait envoyée que je ne vais pas décrire. Parce que ça vous regarde pas. Non, c'est
tout
pas vrai.
Fait.
Pour des raisons de on n'a pas le temps de toute façon.
Oui.
Et c'était plus une blague que ma vraie vie. Enfin, c'était plus une vibe.
C'est une
tu
photo
vois.
D'un couple qui s'embrasse à une manif et c'est une photo extrêmement, du coup, française.
Voilà.
Parce que c'était un couple qui s'embrasse à travers un abribus qui a été éclaté. Enfin, un panneau publicitaire qui a été
éclaté.
Donc, le verre brisé les voilà. encadre comme
c'est...
un.
J'adore,
et donc, moi, j'ai dit, oh mon dieu, mon faire part de mariage.
Tout à fait. Alors on peut
c'est la photo d'Audio Bobby.
C'est la photo de Audio Bobby, B-O-B-Y, et quelqu'un l'a retweeté, Daz l'a retweeté en disant cette photo est tellement française qu'elle possède une carte vitale. Du coup, ça fait partie du roster de mèmes
pour
que
l'instant.
J'envoie en DM à Ida.
Exactement.
Que des mèmes de gauche.
Et c'est mon faire part de mariage. Enfin, du coup, il y aura moi de photoshopé
oui,
dessus avec la personne que j'épouserai. Mais,
Je peux faire ça.
Tu vas mettre Philippe Poutou et la Laïs encore.
Je vais essayer d'aller vite parce que ça fait
Pardon.
Un bon contour.
Mais
j'ai quand même un peu un mini kiff et un gros kiff parce que je viens de... En fait, j'avais un kiff et j'étais là, ouais, je peux le faire, c'est facile, c'est d'actu et tout. Et après, t'as dit un truc qui m'a fait penser. J'étais là, j'ai plus envie de faire ça comme kiff. Donc
et
je vais
boum.
Vous faire le premier très vite et après celui qui m'inspire.
J'ai trigger Mimi.
Mon mini kiff du moment, ce ne sera une surprise pour personne si vous me connaissez un petit peu, c'est la série The Last of Us, qui est une série adaptée d'un jeu vidéo auquel alors je n'ai pas joué. Je suis un peu la dernière caution jeu vidéo de ce podcast, maintenant Cédric est plus rare qu'une comète.
On a essayé. Hein.
Donc je n'ai pas joué à The Last of Us, qui est un jeu de, en gros, on joue Joël, qui est dans un monde post-apocalyptique où les gens sont infectés façon zombie par un champignon. Et il accompagne Ellie, une adolescente, et voilà, ils doivent à la fois survivre et puis suivre une quête qu'on découvrira au fil du jeu ou de la série pour emmener Ellie quelque part. Et The Last of Us est un jeu vidéo avec une narration très cinématographique déjà de base, qui a cartonné, ils en ont fait un 2. Il a surtout été loué pour son histoire et son côté très émouvant, là où le gameplay, bon, c'est un gameplay un peu plus classico. Et c'est adapté par HBO aux États-Unis, c'est dispo sur Prime Video en France, en série télé, qui est adapté à la fois par le co-créateur du jeu et le créateur de la série Tchernobyl, qui avait très bien marché aussi. Donc on est sur du full zombie, enfin full série post-apo zombie, et ça fait un moment qu'on n'avait pas eu une bonne série de zombies. Et moi j'aimais pas Walking Dead. Donc même si Walking Dead a duré 28 ans, ça ne compte pas parce que c'était pas très bien. Et la vibe, la grosse hype zombie est un peu passée, donc là je pense qu'il y a du temps et du soin qui est mis à ok, comment on représente des figures de type zombie désinfecté et une vie dans un monde où du coup bah, il y a cette forme de pandémie dans une série qui en plus sort dans un contexte où on est en pandémie et où du coup c'est des problématiques qui sont assez sensibles pour pas mal de gens.
C'est un peu post-apo ce qu'on vit actuellement aussi finalement.
On est mid-apo là. On
ouais,
est
là,
de...
non, là on est beginning
on
apo.
Retraite
on est au début
à la guerre de l'eau. On sera post, on sera fin apo et après on sera post-apo. Là on est apo premier quart tu vois.
Ouais.
Pourquoi
on est
tu
à l'entrée
okay avec le fait qu'on dise apo comme si on était dans une start-up.
C'est
Parce que
c'est
si on dit apocalypse
c'est post-apocalyptique c'est très long. C'est une série qui est portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui sont deux alumnes de Game of Thrones, comme on dit. Puisque, alors, Pedro Pascal est un Zaddy, évidemment, et il le sait qu'il a une énergie very daron, ce qui marche bien, puisqu'il joue un personnage qui est père et qui est très paternel. Et il a dit d'ailleurs qu'il adore jouer des pères parce que lui, il n'a pas d'enfant. Et il adore se projeter dans. En fait, pour lui, c'est vraiment une expérience parce qu'il est là. Moi, je fais pas ça dans ma vie, je suis pas de gamin. Donc, c'est un daddy dans l'âme et dans son art. Donc Pedro Pascal était Oberyn Martell, formidable prince d'Ornien pansexuel parti trop tôt dans Game of Thrones. Et Bella Ramsey était Lyanna Mormont, une gamine extrêmement combative qui s'est notamment illustrée en combattant un géant et en ne se laissant pas faire par les hommes qui voulaient régir sa vie.
Bravo.
C'est donc les deux têtes d'affiche de la série The Last of Us, dans lequel il y a aussi pas mal d'acteurs et d'actrices qu'on retrouvera. Et je suis très contente parce que donc, le premier épisode est sorti et il est bien. Donc c'est déjà trop bien, c'est quali, il y a du rythme, c'est prenant, c'est émouvant, il y a du pognon de fou, ce qui est important pour faire un bon show post-apo.
Mais est-ce qu'il y a Pedro Pascal tout nu ?
Il n'y a pas Pedro Pascal tout nu, il y a Pedro Pascal avec des émotions et genre il se réveille et il a un vieux t-shirt un peu trop grand et j'étais voilà, c'est quand même un beau moment de vie. Et je pense pas qu'on aura beaucoup de scènes de nu dans cette série, mais on aura beaucoup de Pedro Pascal. Et d'ailleurs, ils ont changé un détail dans le jeu. L'infection se transmet par des spores, donc dans l'air. Et du coup, tous les personnages du jeu portent un masque. Dans la série, c'est par des genres de... Je sais pas, de filaments qui sortent des champignons. Et du coup, ça permet à la fois de pas nous trigger tous et toutes après
avec les masques.
COVID, avec une série où tout le monde est masqué, et de ne pas payer Pedro Pascal pour ne pas montrer sa gueule. Ce qui est peu rentable, même s'ils l'ont fait dans The Mandalorian. Écoutez, oui, il porte un casque. Bref.
On a vraiment une team horny on main dans Laisse-moi kiffer.
Ah ouais, non, mais sur
représenté
Pedro Pascal,
par
Mimi
et entre horny Vincent.
Et Diego Luna dans le clip de The Ones That Got Away de Katy Perry. Très important. Donc la série est cool, ce qui est déjà bien. Elle réussit l'exploit de plaire à la fois aux gens qui ont joué au jeu et qui du coup se sentent pas trahis par l'adaptation, et aux gens qui ont pas du tout joué au jeu et qui sont juste contents d'avoir une bonne série. Et voilà, donc je vous conseille The Last of Us, mais c'est aussi mon mini-kiff parce que c'est une série de nerd où il y a un bon gros suivi et qui sort de façon hebdomadaire. Donc on peut écouter 8 podcasts par épisode, on peut faire des débriefs, on peut faire des récaps rigolos, on peut faire tout ça. Donc ça me donne l'occasion de produire plein de contenu et je suis vraiment, genre je me suis levée lundi à 7h30 du matin et j'étais là, it's The Last of Us Day, je me suis fait un café, je l'ai mis sur Prime, j'étais là, Pedro Pascal, toi et moi là, breakfast, breakfast on my couch. Et après j'étais là, ok, alors qu'est-ce que je vais faire comme van dans mon récap rigolo? Après j'étais là, ok, qu'est-ce que je vais mettre dans mon débrief sur Twitch, j'ai écouté des podcasts, j'ai été lire Reddit, et vous savez que c'est ma passion de, pour une heure d'épisode, de passer 18 heures à bosser dessus derrière. Donc je suis très contente d'avoir une nouvelle série où je peux faire ça, parce qu'il y a plein de bonnes séries mais elles ont pas toutes ce côté débriefable, théorie, analyse de l'adaptation. Genre j'adore Succession, tu peux faire une critique d'épisode et peut-être un peu essayer d'imaginer la fin, parce qu'il y a quand même des rebondissements, des intrigues politiques et tout,
mais bon, c'est limité,
c'est un drama quoi, c'est des gens qui vivent leur vie et tu les regardes faire, là il y a un petit peu, il y a de l'enjeu. Donc voilà, ravie de The Last of Us, c'était mon mini kiff, il était un peu long, j'ai triché. Mon gros kiff, j'y ai pensé quand t'as parlé de papier, ça m'a fait penser que mon mec m'a offert un super cadeau à Noël, et ça m'a fait penser que mon kiff c'est les cadeaux de mon mec. Il est hyper fort quand
il fait
des cadeaux.
C'est quoi, c'est un presse-papier ? Qu'est-ce que c'est ?
Non. Contexte. Je trouve que moi j'aime bien faire des cadeaux et j'aime bien mettre du soin, essayer de trouver un bon cadeau qui est pertinent pour la personne, qui est genre un clin d'œil, qui machin, qui est pas juste au rayon idée cadeau de Cultura.
La Smartbox.
No
shade. Nature et découverte.
Alors cela dit. Nature et découverte avait mis le seau à compost de cuisine dans leur idée cadeau. Je l'ai offert à ma mère, elle l'a installé direct et elle en a parlé pendant 3 jours après. Donc, parfois, c'est un bon réservoir d'idées.
Ça, c'est une réussite, oui.
C'est une réussite, sachant que son cadeau de l'année dernière, elle m'avait. Genre, elle l'a ouvert, elle l'a analysé, elle a compris comment ça marchait, elle m'a dit non merci. Et donc, elle me l'a rendu et elle m'a dit j'ai autre chose que je voudrais. Je lui ai dit tu veux quoi ? Et elle voulait une râpe pour les pieds. Du coup, je lui ai acheté une râpe pour les pieds. J'étais bah tiens, t'as
attends,
un qu'est-ce que je te dis ?
Mais
elle s'en sert, elle est contente.
Attends,
pour la peau morte sous les pieds. C'est, les,
c'est
quand
comme ça
les...
qu'on fait le parmesan, non ?
Non, c'est pas comme ça qu'on fait le parmesan.
Ça me dégoûte.
C'est ce que la France, ils ne veulent pas. Mais nous sachons. Anyway, je suis en train de m'égarer. Donc, j'aime bien faire des cadeaux et j'aime bien réfléchir un peu aux cadeaux que je fais. Et je trouve que historiquement les mecs hétéros avec qui je suis sortie et les mecs hétéros en général sont pas trop élevés à faire ça. Il y a un peu cette idée, bah, il y a plein de couples où c'est la meuf qui s'occupe des cadeaux de littéralement tout le monde, y compris la famille du gars, où c'est la meuf qui va être jugée sur la qualité des cadeaux aussi, où si le gars il offre un cadeau nul genre 3 paires de chaussettes blanches, on va un peu dire à la meuf bah dis donc t'aurais pu l'aider, genre bah il peut pas s'aider lui-même. Donc bon, j'ai été avec des gars alors qu'ils font, j'ai eu des beaux cadeaux, il y a pas de souci, ce n'est pas une généralité, mais il y avait pas toujours ce côté un peu OK, je vais chercher un truc qui te correspond vraiment, tu vois. C'était genre c'est un truc cool, mais est-ce que c'est un truc ultra mimi, I don't know. Pour la personne à qui je passe le plus de temps dans ma semaine, c'est quand même touchant quand tu sens que c'est vraiment réfléchi et adapté. Et mon mec s'en est trop bien sorti depuis qu'on est ensemble. Et notamment à Noël de l'an dernier, il m'a offert un cargo pant en velours vert. Donc il y a un pantalon avec des poches sur le téco comme les pantalons militaires. Mais en velours façon Gatefa, pas de def,
vert, incroyable, et oversize. Et il est incroyable, je ne me le serais jamais acheté. Je trouve que c'est hyper dur d'offrir un pantalon à quelqu'un parce que, en plus, oui, je suis petite, j'ai des petites jambes, j'ai eu des fluctuations de poids et tout.
Pas grave, tu vas souvent à la mercerie, donc tout va bien.
Comme vous le savez, j'ai été à la retoucherie, j'ai donc pu le faire retoucher et je l'aime trop. J'étais là, franchement, t'as grave marqué les puntos en m'offrant ça parce que c'est très moi et genre même moi, je savais pas que c'était moi, mais je l'adore. C'est évidemment mon pantalon préféré maintenant. Et là, à Noël, il m'a offert, alors c'est pour ça que j'y ai pensé quand t'as parlé de papier, il m'a offert un diorama. D'ailleurs d'un compte qui s'appelle Dioramax que vous pouvez suivre sur les réseaux et à qui vous pouvez passer des commandes. Un diorama, comme un tableau mais avec de la profondeur et en gros c'est différentes scènes en papier qui font différents plans mais comme une
J'adore.
Scène de théâtre où tu vas avoir un carton devant qui fait les buissons,
je sais pas,
un
je
carton un peu
théâtre.
Oui, t'es pas très théâtre.
Non.
Un carton derrière qui fait un arbre et tout, donc ça te fait du coup des niveaux de perspective, de profondeur, tout à fait. Et il m'a fait faire un Dioramax sur mesure avec des éléments de ma chaîne Twitch et des trucs que j'aime bien et mon chat et tout.
Oh.
Et il y a une lumière dedans et ça marche à pile, donc tu peux le rétroéclairer de l'intérieur. Donc c'est vraiment une lightbox avec un motif. Alors le Dioramax, le compte qui fait ça, on fait beaucoup beaucoup autour de la pop culture, du jeu vidéo, du manga, mais on peut en faire avec tout. Genre vous pouvez vous faire la vague de Hokusai en Diorama si vous voulez pour la mettre chez vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs de nerd comme moi qui ai bien sûr un Dioramax à thème Stardew Valley un petit peu, qui est un très bon jeu vidéo. Et c'est genre trop un beau cadeau, c'est une pièce unique qu'il a fait pour moi et en même temps qui a aussi un intérêt pro parce que du coup ça va dans mon décor de live Twitch et c'était aussi l'idée. J'ai failli pleurer en l'ouvrant, j'étais là, mais je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait faire ça. Et lui il l'a trouvé, il a demandé au gars, il lui a envoyé les bons éléments, il a fait la bonne construction pour soi, genre ultra mimicor. J'étais là, putain, il est fort en cadeau.
C'est
j'étais contente,
trop chou,
genre j'étais
et
là,
trop bien.
Heureusement que je lui ai fait un beau cadeau. Moi aussi, je lui ai fait faire un truc personnalisé et tout. J'étais là, putain, heureusement que je lui ai pas acheté un jean parce que waouh, wow, je me serais détestée, quoi. Ça aurait été la honte. Donc, merci à mon amoureux de ces cadeaux. C'est mon kiff. Et n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux à faire, il vaut mieux le petit détail ou la petite personnalisation qui fait genre c'est juste pour toi que le truc cher ou que tout le monde veut. Après, ça dépend. Genre, si la personne vous a dit je veux vraiment juste des nouveaux écouteurs, achetez-lui des nouveaux écouteurs. Mais si vous lui achetez des nouveaux écouteurs et que vous faites personnaliser la boîte, par exemple, avec une petite blague ou quoi, bah c'est encore mieux. Donc, voilà, mon kiff, c'est les cadeaux de mon mec parce que il est fort.
Meilleur kiff.
Trop
coin,
mignon.
Coin.
C'est très mignon.
C'est la fin de ce premier épisode.
Bah,
laisse-moi
oui.
kiffer. On espère que cette proposition vous a plu, que vous avez envie d'en entendre plus, sinon on s'arrêtera là. Hein, voilà.
Bah oui,
n'hésitez pas à nous donner du feedback sur ce qu'on pourrait améliorer, changer.
Sur Apple Podcast,
sur Apple Podcast. Abonnez-vous, parlez-en à tous vos amis, ce nouveau podcast que sort Mademoiselle, qui mérite d'être écouté par le plus grand nombre. Prenez soin de vous, en manif comme ailleurs.
Oui.
Et on vous dit à jeudi prochain. Et on vous fait des bisous.
Salut les amis.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.